nous allons ouvrir la parole de Dieu avec vous ce soir, chers amis, en lisant quelques versets, comme nous l'avons prévu déjà au livre du prophète Daniel, au chapitre 2, verset 27. Daniel répondit devant le roi et dit: le secret que le roi demande, les sages, les enchanteurs, les devins, les augures n'ont pu l'indiquer au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. Ton songe et les visions de ta tête sur ton lit, les voici. Verset 31. Toi, ô roi, tu voyais, et voici une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Et elle se tint devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main, et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de l'air d'été. Et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire. Fin du verset 38. Toi, tu es cette tête d'or, et après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième et autre royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. De même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. Et selon que tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. Et il y aura en lui de la dureté du fer selon ce que tu as vu, le fer mêlé avec de l'argile grasse. Et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et sera en partie fragile. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence, à la race des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ses rois, dans les jours de ses rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broiera et détruira tous ses royaumes, mais lui, il subsistera toujours. Selon que tu as vu que de la montagne, la pierre s'est détachée sans main, et qu'elle a broyé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Et le songe est certain, et son interprétation est sûre. Lisons encore un verset ou deux au livre de l'Apocalypse, livre que nous ouvrons au chapitre 11e, verset 15. Nous pourrons déjà lire le verset 14. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur. vient promptement. Et le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de grandes voix disant, le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il règnera au siècle des siècles. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu, disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugé, et pour donner la récompense à tes esclaves, les prophètes et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. Nous arrêtons là. Nous reviendrons en quelques mots seulement, chers amis, et sans aucune prétention au savoir, nous le répétons, sur ce qui était devant nous l'autre soir, sur ce sujet de la prophétie qui revêt, qui pourrait en douter, un caractère, un cachet d'actualité extraordinaire. Ils sont parvenus à l'extrême limite de la patience de Dieu. Et nous avons rappelé ce que Pierre nous dit, que la prophétie nous a été donnée, et nous faisons bien d'y être attentifs, car elle est comparée à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Si tout à coup nous étions sans lumière dans cette salle, si nous devions nous déplacer lorsque la nuit est venue, nous allons trébucher contre toutes sortes d'obstacles. La prophétie est cette lampe qui met notre environnement moral en lumière pour que nous discernions le caractère des choses dépeint par Dieu lui-même afin que nous échappions à cet environnement marqué pour le jugement. Car ce n'est pas, nous l'avons rappelé, pour satisfaire notre curiosité que la prophétie nous a été donnée, mais pour détacher nos cœurs d'une scène qui dans peu de temps sera frappée par le jugement et le côté positif qui pourrait l'oublier, attacher nos cœurs à celui qui est au centre de la prophétie, qui en est le rouage essentiel, Christ, et la domination que Dieu lui a donnée sur toutes choses, au ciel comme sur la terre, comme il en sera sur la terre, maintenant au ciel couronné de gloire et d'honneur. Mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Nous ne voyons pas encore le royaume établi. Mais nous venons de le lire. Le temps est proche. Il l'était déjà au temps de Jean. Que dire aujourd'hui? D'un moment à l'autre, l'Église va partir. Et il ne restera sur la scène qu'une profession sans vie. Et pour ne pas l'oublier, peut-être, hélas, des enfants de nos familles qui, habitués à entendre les appels de la grâce, ne se sont pas appropriés pour eux-mêmes, ne se sont pas identifiés eux-mêmes avec la famille de la foi, en réglant leur compte avec Dieu, en venant au pied de la croix, n'ayant qu'une foi extérieure, celle de leurs parents, mais absolument insuffisante. Le temps est proche. Le Seigneur peut venir ce soir. Qui pourrait en douter et qui pourrait méconnaître la nécessité d'être en règle avec Dieu pour échapper aux terreurs que le monde va connaître tout à l'heure. Malheur, malheur, malheur à la terre, s'écrit le prophète du Nouveau Testament. Bienheureux, d'autre part, au contraire, ceux qui vont partir et que le Seigneur va introduire dans la maison de son père. Nous avons dit aussi que la prophétie suppose toujours un temps de ruine, un temps de décadence. Dieu se sert des prophètes pour rappeler à son peuple la nécessité de maintenir le contrat, l'alliance, les conditions de l'alliance qu'il a passée avec le peuple pour jouir de la faveur que Dieu veut répandre sur lui, car l'intention de Dieu est toujours de bénir, et pour échapper au jugement, aux conséquences tragiques, dramatiques, qui inéluctablement doivent intervenir pour sanctionner le mal vers lequel le peuple retourne. C'est une tendance naturelle. Et notre cher devancier JND disait une phrase qu'il est intéressant de retenir. Le terme le résidu, car nous avons vu aussi que Dieu, dans tous les temps, se réserve, se suscite à lui-même un résidu fidèle. Et disait ce cher serviteur de Dieu, le résidu, que signifie-t-il? Nous le trouvons pour la première fois dans le chapitre 1er du prophète Ésaïe, et le prophète doit nous dire, si l'Éternel ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été semblables à Sodome et à Gomorre. Et c'est bien par la grâce de Dieu qu'un petit résidu a été maintenu dans tous les temps, comme il en est aujourd'hui dans la profession chrétienne. Sans que personne s'en doute, et cette outrecuidance de dire « nous sommes le résidu ». Gardons-nous bien de cette prétention qui correspond si peu à notre pauvre et misérable état. Il y aura, c'est une certitude basée sur l'Écriture, il y aura un résidu fidèle selon l'esprit de Philadelphie jusqu'à la fin, puisqu'à celui-là le Seigneur promet sa venue. Mais la question essentielle est de savoir si nous portons le caractère de Philadelphie, c'est-à-dire celui d'un résidu dans tous les temps. Être attaché à la parole de Dieu, la respecter dans toutes ses parties et ne pas renier le beau nom de celui qui est invoqué sur nous. C'est un caractère qui traverse toute l'Écriture et qui marque un résidu fidèle. Que, répétons-le, Dieu suscite et Dieu maintient par sa grâce. Une toute petite parenthèse ne sera peut-être pas inutile. Lorsque l'on étudie les sept épîtres d'Asie, on est arrêté par celle de Philadelphie, qui a un caractère bien particulier, petite assemblée à laquelle le Seigneur ne fait aucun reproche. Sa faiblesse extérieure ne l'empêche pas d'être fidèle. Le Seigneur ne reproche pas d'être faible à quelqu'un, parce qu'il y a du remède pour cela. Mais le Seigneur reproche d'être infidèle. Le Seigneur ne fait aucun reproche à cette petite église. Et où la trouvons-nous dans l'histoire de la chrétienté? Bien quelqu'un a dit, toujours le même serviteur de Dieu, que nous honorons tous sans doute, au siècle dernier, par la grâce de Dieu, un petit résidu fidèle a été suscité, réveillé par l'Esprit de Dieu, et il avait une telle importance pour le cœur du Seigneur qu'il y rattache à ce petit résidu suscité par lui le caractère d'une église telle que Philadelphie. Mais si nous retournons antérieurement, dans l'histoire du temps, où allons-nous trouver Philadelphie? Eh bien, nous ne la trouverons nulle part. Sinon, il nous faut retourner jusqu'à l'Église historique. Mais jusqu'au siècle dernier, c'est un fait affirmé par l'histoire elle-même. Nous ne trouverons nulle part Philadelphie. Parce que depuis le commencement, dès le commencement, hélas, la décadence s'était déjà manifestée et elle se traduit, chers amis, non pas tout de suite par des actes extérieurs, mais dans le cœur de chacun. Dans mon cœur, dans votre cœur, dans le cœur de qui que ce soit. Et le Seigneur l'a défini, cet abandon que personne peut-être ne peut mesurer dans des faits, à un moment donné, mais que le Seigneur lit dans le cœur. Et il s'exprime par une seule phrase. Et ceux qui l'ont entendu pour la première fois, lorsque le lecteur a lu la lettre de l'apôtre, n'ont pas manqué, disait un de nos chers frères, de sentir la pointe de l'épée. J'ai contre toi, et c'est la source de tout ce qui va suivre quant aux effondrements qui se terminent tout à l'heure par cet immense système politico-religieux qui s'affirme aujourd'hui de façon si saisissante sous nos yeux. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es déchu et repens-toi. Voilà le premier pas dans le chemin de la décadence. Et nous disons qu'un résidu est expliqué par une seule phrase de ce cher serviteur qui nous dit « C'est la preuve de ce que sont nos cœurs naturels ayant toujours la tendance de retourner au mal dont Dieu les a délivrés. » Quelqu'un peut-il s'inscrire en faux contre cette affirmation? Qui a pu remettre à Dieu ce que Dieu lui avait confié? Et nous terminons, nous fermons cette parenthèse en disant, eh bien, chers amis, on a dit aussi qu'un témoignage fidèle n'a guère duré plus de 100 ans dans l'histoire d'Israël comme dans l'histoire de l'Église. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où la gloire descend du ciel pour venir remplir le temple et l'invocation d'Élie à l'autel? Homme de Dieu, consterné, ils ne savent plus qui est Elohim, si c'est l'Éternel ou si c'est Baal. Combien de siècles se sont écoulés depuis ce glorieux moment où l'on chante, célébrant l'Éternel, car sa bonté demeure à toujours. Quel bonheur de faire partie de ce peuple qui a la demeure de Dieu au milieu de lui. Tu es bienheureux, Israël, qui est un peuple comme toi, sauvé par l'Éternel. Célébrons l'Éternel, car sa bonté demeure à toujours. On chante dans le temple ce magnifique cantique. Combien de siècles se sont écoulés quand Élie doit dire à l'Éternel, ils ont oublié absolument et entièrement ton caractère, ce que tu es. Se sont tournés vers les idoles, se prosternant devant des idoles de bois et de pierre avec toutes les conséquences désastreuses, moralement insoutenables qui en découlent pour Dieu. Nous avons rappelé l'autre jour jusqu'à quel point cela... Jusqu'où ce chemin est allé pour Israël? Combien de siècles? Eh bien, il y a 100 ans seulement, depuis que la gloire est descendue dans le temple, et cet autel devant lequel Élie doit faire cette amère, cette décevante constatation. Et nous terminons cette petite parenthèse en affirmant, chers amis, ce qui a été dit par d'autres, et combien cela est vrai, s'il y a un petit résidu maintenu aujourd'hui, dans les assemblées, c'est bien par un effet de la grâce de Dieu, car le réveil date de 150 ans au moins. Et s'il y a encore quelques fidèles, et puissions-nous souhaiter en faire partie de ceux que le Seigneur approuvera tout à l'heure lorsqu'il va venir, c'est bien par un effet de la grâce de Dieu. Mais avant de poursuivre, disons encore ceci. C'est intéressant pour ceux qui sont jeunes. Il n'y a pas très longtemps, nous lisions une phrase et elle peut heurter quand on la lit pour la première fois. Qu'est-ce qui suit Philadelphie? Sans doute, historiquement, c'est la Odyssée. Nous le savons bien. Nous avons souvent entendu parler de ces sujets si importants et si actuels. Mais quel est le danger de Philadelphie? Pensez-vous que c'est de devenir la Odyssée? Sans doute l'esprit de la Odyssée peut gagner quelqu'un. Mais dans nos assemblées, dans le témoignage que le Seigneur a maintenu jusqu'ici, marqué par tant de faiblesses, est-ce que nous aurions, disons, l'hardiesse de nous vanter en disant « Je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Nous sentons bien que ça ne va pas. Eh bien, disait ce cher serviteur de Dieu, ce n'est pas la Odyssée qui est tant le danger de Philadelphie, c'est quoi? C'est l'apostasie. Et qu'est-ce qu'être apostat? Bien au bas de la page d'un psaume, nous lisons ceux qui se détournent. Et à la note, le traducteur a écrit l'équivalence de ceux qui se détournent, les apostats. Est-ce que ce n'est pas, chers amis, un sujet de consternation dans nos assemblées, dans nos familles? N'y a-t-il pas beaucoup parmi les nôtres qui se sont détournés et qui sont par conséquent devenus apostats, à moins que Dieu intervienne pour les réveiller du piège mortel dans lequel ils se sont laissés prendre par l'adversaire? Ce n'est pas tant la odyssée de dire « je suis ». La profession le dit, va le dire demain. Comportant tout ce qui reste de Thyatire et de Sardes lorsque les véritables croyants seront ôtés du milieu d'eux. Mais ce n'est pas le danger qui nous guette aujourd'hui. Le danger qui nous guette, c'est l'apostasie, de nous détourner. Eh bien, pour revenir à notre sujet prophétique, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur, et Dieu a suscité des prophètes pour rappeler au peuple la nécessité de maintenir l'alliance qui a été conclue en vue d'éviter le jugement inéluctable qui se trouve au bout de ce chemin lorsque la patience de Dieu a son terme. En même temps, avons-nous rappelé soutenir la foi d'un petit résidu qui souffre et placer devant lui la brillante espérance de la venue du Seigneur avec lequel ceux qui souffrent aujourd'hui seront consolés, car il n'a jamais été facile d'être fidèle. Il a toujours fallu que le fidèle aille contre le courant, d'où la comparaison si saisissante du fidèle dont nous trouvons l'image dans le bon poisson de Lévitique 11, ayant des écailles et des nageoires. Il n'a jamais été facile d'être fidèle. Cela nécessite le désaveu de ce qui entoure, de ce qui nous entoure, et entraîne par conséquent, amène sur soi la réprobation de ce système, sans oublier, allons-nous le dire, sans oublier le feu, la corde, l'inquisition, les bûchers de nos chers devanciers, qui, par fidélité au Seigneur, se détachaient d'un système d'iniquité. Le Seigneur propose donc aux fidèles qui souffrent d'être avec lui et de gouverner les nations demain avec une verge de fer, car ce qui corrompt la terre aujourd'hui sera châtié demain, et comme un vase de poterie sera mis en pièces par cet homme maniant cette verge de fer, il ne restera rien de ce vase, pas même un tesson pour prendre un peu d'eau ou contenir un peu de feu. Tout sera mis en pièces. Le Seigneur propose donc à celui qui souffre aujourd'hui la glorieuse récompense de la royauté avec lui. Convient aussi de rappeler qu'il y a une date importante dans l'histoire du peuple de Dieu sur la terre. Et elle se précise par une phrase que le prophète devra dire de la part de Dieu. Il dira, maintenant, il n'y a plus de remède. Et plutôt que de châtier le peuple par des nations voisines qui faisaient des incursions, comme nous le savons, c'est un châtiment bien plus sévère qui s'est abattu sur le peuple. Il est allé, hélas, en captivité, transportation opérée par le premier grand chef de la monarchie générale Babylone, à laquelle Dieu confie l'autorité, ôtant son trône de Jérusalem et le confiant aux nations. C'est un moment très important dans l'histoire du temps. C'est un moment charnière, car dès lors, le temps des nations commence. C'en est fini de l'existence d'Israël comme peuple indépendant. C'est pourquoi, après 25 ou 26 siècles, lorsqu'en 1948, les frères ont entendu cette nouvelle qu'Israël était constitué, se reconstituait comme nation, ayant des frontières, ayant une armée, ayant un parlement, ayant tout ce qui caractérise une nation indépendante, le cœur des frères a vibré. Israël, de nouveau, était sur la scène, le figuier qui pousse des feuilles, sans doute pas de fruits, mais n'était-ce pas là un avertissement, un gage saisissant de ce que le Seigneur nous annonce quant au temps au temps dans lequel nous sommes parvenus et qui vont se conclure dès que nous serons partis au ciel. Quand vous verrez le figuier qui pousse des feuilles, quand vous verrez ces choses qui commencent à arriver, levez vos têtes, dit le Seigneur. Regardez en haut, car votre rédemption approche. Et il va y avoir 40 ans. Et ceux qui ont lu un peu l'Écriture savent bien que 40 ans comportent un enseignement, une signification très, très importante. Il va y avoir 40 ans qu'Israël est sur la scène. Mais il est toujours vrai que Lo Ami, c'est-à-dire pas mon peuple, est écrit sur lui depuis que le temps des nations a commencé, c'est-à-dire depuis 606 avant notre ère, nous avons cette date au bas de nos pages, quand Nebuchadnezzar, premier chef de la monarchie gentille à laquelle Dieu a donné l'autorité, a mis fin au royaume de Juda. Et nous sommes toujours dans cette période, dans ce temps, qui comporte une parenthèse, celle de l'Église, bien entendu. Et cette parenthèse est en dehors des temps et des saisons. Les temps et les saisons dont il est question dans la parole de Dieu, et le Seigneur dit à ses disciples, ce n'est pas à vous à connaître les temps et les saisons. Les temps et les saisons sont en rapport avec la terre. Et c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, nous avons maintes fois des dates pour situer des grands faits de l'histoire du monde, des grands faits relatifs à Israël. Nous n'avons plus aucune date dans le Nouveau Testament. Cher frère Samuel Prodon fait cette remarque quelque part. Il dit, vous ouvrez le Nouveau Testament, plus jamais une date n'est donnée au bas de nos pages. Pourquoi? Parce que la prophétie a pour sphère, nous le répétons, Israël et les nations ne concernent pas l'Église. On pourrait peut-être encore dire bien des choses là-dessus, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Sauf que nous pourrions rencontrer l'argument de quelqu'un qui dirait, mais vous parlez des lettres de l'Apocalypse, qui sont des lettres adressées à des églises et qui ont un caractère prophétique, évidemment. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Mais quand l'Église est déchue de sa position céleste et qu'elle s'identifie, qu'elle s'unit avec le monde, qu'elle est devenue immensément mondaine, sans avoir rien apporté de concret au monde, sans l'avoir changé dans aucune manière, quand l'Église s'est prostituée, qu'elle est devenue immensément mondaine, il est évident que la prophétie la concerne, car elle s'identifie avec un ordre de choses terrestres. Elle abandonne sa position céleste, car en croyant quelqu'un qui vient à la foi de Jésus aujourd'hui, il en a fini avec le temps et avec le monde. Il n'appartient plus au monde, il n'appartient plus au temps. Il appartient à un ordre de choses célestes dans lequel Christ est entré, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Pour l'Église, nous n'avons pas de prophétie, nous avons, dernier mot quant à ce détail, nous avons des révélations. Le Seigneur nous a donné des révélations d'une valeur, d'une portée extraordinaire. En suscitant l'apôtre qui nous a révélé le secret du cœur de Dieu gardé jusque-là quant à Christ et à son Église. Nous en venons maintenant à ce prophète Daniel, jeune homme qui vit dans des temps extrêmement fâcheux, sans doute moralement semblable à ceux que nous vivons. Son père devait être un homme pieux. C'est un jeune homme d'une famille noble, il est incontestable. Mais ce qui n'empêche pas d'être pieux, et que trouvons-nous à l'égard de son nom? Que veut-il dire? Eh bien, le père de ce garçon, en constatant ce qui se passait au jour de Joachim, de Joachim, de Sédécias, après le réveil de Josias qui n'a duré qu'une lueur, cet homme devait se dire ce que chacun de nous aujourd'hui qui a quelque peu conscience du sérieux du temps ne manque pas de réaliser au dedans de lui-même. Le père de Daniel devait se dire tout ce qui nous entoure appelle le jugement. Et il appelle son fils jugement de Dieu. La scène dans laquelle nous nous mouvons incontestablement offensant Dieu mettons de côté tout ce que Dieu nous a donné comme privilège, se moquant de Dieu, cette scène, elle appelle le jugement. Et bien qu'il s'écriait, le temple, le temple, le temple, oh, nous avons des privilèges, nous sommes le peuple de Dieu, nous avons des privilèges que personne ne peut nous ôter. Nous avons rappelé ce que le prophète leur dit, allez voir à Silo ce qui s'est passé. Et bientôt, Jérusalem ne sera plus qu'un monceau de ruines. Le temple, absolument détruit, tout sera jeté par terre. Et ce jeune homme va partir en captivité avec le premier contingent en 606, puisqu'il y en a trois, et il va s'en aller à Babylone avec les captifs de son peuple. Et nous avons dit que jusque-là, les prophètes parlaient au nom de l'Éternel au peuple tout entier, sans doute à la partie responsable, car un jeune homme n'est pas responsable au même titre qu'un frère âgé. Cela, c'est bien, bien clair pour chacun. Jusqu'à ce moment où Israël prend fin comme nation, les prophètes parlent au nom de l'Éternel à la conscience du peuple, sans doute à la partie responsable d'abord. Mais maintenant, c'est une remarque de la plus haute importance. Les rapports extérieurs entre Dieu et son peuple sont terminés. Dieu a écrit « Pas mon peuple, plus mon peuple ». Il ne reconnaît plus publiquement son peuple. Mais chose extraordinaire, mais qui pourrait l'oublier? Et comme cela nous fait du bien de nous appuyer, non pas toujours sur ce qui est du côté de l'homme, mais sur le côté de Dieu. Si Dieu doit être contre son peuple dans ses voies publiques, a dit quelqu'un, il n'oublie jamais son peuple au-dedans de son cœur. Il est pour Israël dans ses affections. Quoiqu'étant contre lui dans ses voies publiques, il n'oublie jamais les promesses qu'il a faites au Père. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, pour revenir en arrière sur ses promesses. Et la nation que Dieu choisit comme verge pour châtier son peuple devra connaître elle-même la vengeance de l'Éternel, comme un père qui châtie son enfant sans doute, mais pourrait-il supporter qu'un autre le fasse à sa place? Eh bien, Nebuchadnezzar, avec cette nation à la tête de laquelle il se trouve pour châtier le peuple, connaîtra, nous le savons bien, l'histoire nous est rapportée par le prophète Jérémie et par l'histoire en général, connaîtra les châtiments les plus sévères. Souvenons-nous de ce que le prophète annonce bien des années d'avance, la nuit de mon plaisir, la nuit de l'orgie que je célébrais à Babylone, il l'a changée en effroi. Cyrus s'est entré à travers la ville, par le lit du fleuve, a séché, et en une nuit, tout a été passé, tous ont été passés au fil de l'épée. La vengeance de mon temple, dit l'Éternel, Dieu n'oublie jamais son peuple, mais c'est une nécessité maintenant, Israël est parti en captivité. Alors Dieu ne parle plus au peuple, Dieu ne parle plus au peuple comme il le faisait par Jérémie, le dernier en scène, notamment, ainsi dit l'Éternel. Mais il reconnaît comme peuple, si réduit qu'il soit, ce petit résidu fidèle, et c'est à lui qu'il confie ses secrets. Voilà le grand principe que nous découvrons en lisant le prophète Daniel. Dieu ne s'adresse plus à son peuple, c'est terminé quant à ses voies publiques avec lui. Mais il reconnaît en Daniel et en quelques-uns, et puissions-nous, nous le répétons, souhaiter faire partie de ces quelques-uns auxquels le Seigneur ne fera aucun reproche lorsqu'il viendra, et qu'il trouvera veillant, le servant humblement, chaque jour, étant lumière pour lui au milieu des ténèbres. Seigneur, reconnaît Daniel et ses quelques-uns dans ces jours-là, et c'est à eux que le Seigneur va révéler ses secrets. Et il va montrer à Daniel, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je cacherai un ami avec lequel j'entretiens des relations cordiales? Est-ce que je vais cacher un ami un projet important que j'ai conçu? Mais il va de soi que je ne peux pas cacher cela à un ami. Je vais lui dire, voilà ce que j'ai devant moi. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et ce grand roi, Nebuchadnezzar, va connaître un rêve, va connaître une vision, et nous en avons tous les détails dans ces chapitres 1 et 2 du prophète Daniel. Tout d'abord, pour l'encouragement de ceux qui sont jeunes. Nous avons dit l'autre jour que Daniel a répondu favorablement à l'appel de Jérémie, qui, lorsque tous se détournaient, demandait encore, comme le Seigneur le fait aujourd'hui, qui veut engager son cœur pour moi ? Daniel a arrêté dans son cœur d'être fidèle. Et à 900 kilomètres de sa patrie, alors qu'il avait toutes les raisons, cela paraissait bien légitime de s'identifier, de se conformer aux us et coutumes de Babylone. Il était jeune, il fallait vivre. Ce jeune homme, chers amis, vous voyez ce que le Seigneur dit ? Par Samuel, celui qui m'honore, je vais l'honorer. Et nous lisons encore, 26 siècles après qu'elle s'est déroulée, l'histoire de Daniel. Qui pourrait dire aujourd'hui le nom et la date du premier homme qui a marché sur la lune? Au moment où cela s'est produit, ce nom était sur toutes les lèvres. On parlait de cela. Mais, chers amis, cette histoire est terminée depuis longtemps. Ce nom est passé dans l'oubli. Mais nous lisons encore, 26 siècles après, l'histoire de Daniel, ce jeune homme fidèle qui arrête dans son cœur, qui ne veut pas manger, qui ne veut pas se souiller avec les mets délicats du roi, avec le vin capiteux de l'époque, avec tout ce qui exalte l'homme, bien que soumis comme il le fallait, vous savez bien que ils doivent subir, nous dirions aujourd'hui, un recyclage sans doute pour s'adapter aux conditions de Babylone. Ils vont être les objets d'un écolage intensif qui va les rendre à même d'être serviteurs de ce grand roi qui, vous voyez, comme sa fierté était flattée d'avoir un parterre de serviteurs desquels il pouvait dire « Ah, voilà ceux qui viennent d'Assyrie, voilà ceux qui viennent de Jérusalem, voilà ceux qui viennent d'ailleurs ». Cela l'exaltait et ces jeunes gens étaient là autour de lui pour le servir. Mais Daniel, cher ami, tout en accomplissant ce qui était requis de lui, soumis comme il convenait qu'il le soit, son cœur était à Jérusalem. Parce que pour Daniel, une ville en ruine, un temple brûlé, les murailles renversées, le peuple entièrement assujetté aux nations n'enlève rien à la promesse que Dieu a faite. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et Daniel se tourne vers ce lieu qui n'est plus qu'un monceau de ruines trois fois le jour pour prier l'Éternel et avoir les ressources, les forces, le courage nécessaires pour être fidèle dans les conditions les plus éprouvantes qui soient. Quelle histoire intéressante, comme elle a soutenu, encouragé les croyants à travers les difficultés, les persécutions qu'ils ont connues à travers les âges. Et faisant la découverte que Dieu n'est pas un Dieu de loin, mais un Dieu de près, et que les promesses qu'il a faites, Dieu les accomplit à la lettre, comme il l'a fait pour ce jeune homme. Le roi a songé un songe important, personne ne peut, évidemment il met tous ces gens instruits qui sont là autour de lui, une nuée autour de lui. Il veut se mettre à l'abri de toute supercherie et il exige que non seulement l'explication du songe lui soit donnée, mais qu'on lui révèle le songe. Personne ne peut faire cela. Mais Daniel, qui est concerné par cet état de choses, peut dire, mais si personne, s'il n'y a pas un homme sur la terre pour répondre à cette question du roi, pour lui donner cette satisfaction, il ne faut pas que le roi ignore qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et que lui peut donner la réponse au roi. Et non pas pour satisfaire sa curiosité, pour le flatter en aucune manière, mais pour parler à sa conscience. Et Daniel va donner au roi la connaissance du songe qu'il a songé, et en même temps l'explication que nous avons lue ensemble. Ce que Daniel a annoncé à tel point que les incrédules, vous le savez bien, disent que Daniel est un historien, n'est pas un prophète. Qu'il a écrit beaucoup plus tard que la date à laquelle il est fait mention, la date de la transportation. Mais, chers amis, nous savons bien ce que les rationalistes, ce que les incrédules peuvent inventer comme pensée. Le Dieu de ce siècle ayant aveuglé les pensées des incrédules pour que la gloire de Dieu ne brille pas pour eux. Mais Daniel, au moment où le premier empire est à peine éclos, est à peine affirmé sur la scène, nous donne l'histoire des quatre empires qui allaient se succéder, et nous sommes au commencement de l'existence du premier. Et avec une précision extraordinaire, que l'histoire a confirmée point pour point, Daniel nous donne tout ce qui allait se dérouler sur la terre, tous les grands faits de l'histoire, parce que nous l'avons rappelé, nous l'avons vu ensemble, c'est l'histoire d'Israël, c'est le peuple d'Israël qui conditionne toute l'histoire du monde. Quand Dieu a besoin d'une nation pour châtier Israël, il suscite les Chaldéens. Quand il veut maintenant rétablir son peuple après 70 années de captivité, il va susciter Cyrus, et ainsi de suite. Les grands faits de l'histoire sont liés à celles d'Israël, sont subordonnés à celles d'Israël. Hier, maintenant et demain. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Les hommes, évidemment, sont aveugles sur ce point. Mais nous savons bien que les chars conduits par les chevaux qui illustrent le cheminement des nations dans le monde, ces chars roulent entre des montagnes d'airain dans une vallée. Ils ne peuvent aller malgré leurs prétentions, malgré l'affirmation qu'ils font de leur politique, disant que c'est grâce à leur politique, à leur sagacité, à la puissance de leurs armées qu'ils ont atteint tel et tel objectif qu'ils s'étaient fixés. Rien de tout cela. Le char des nations roule entre des montagnes dans une vallée, entre des montagnes d'airain, et ils ne peuvent qu'accomplir ce que Dieu a décrété pour eux. Et Daniel va nous donner à partir du début du premier empire toute l'histoire de ceci. Dans le songe que nous avons devant nous, c'est évidemment Nebuchadnezzar qui l'a songé. C'est le côté de l'histoire du monde, de la puissance du monde vue du côté des hommes, sous la forme, sous l'image d'une grande statue qui a trois caractères tels que le pouvoir qui s'affirme de la part des hommes entraîne toujours comme sentiment chez ceux qui les observent. Cette statue, elle est grande, elle est extraordinaire et elle est terrible. Cette grande statue, Daniel va nous en donner la description, la signification, et nous nous posons tout de suite la question, que reste-t-il à accomplir? Parce que plus tard, Daniel va recevoir alors des visions de la part de Dieu, mais pour lui, pour le résidu de son peuple. Mais ce ne sera plus, si nous avons le privilège de nous en occuper, peut-être nous verrons, ce ne sera plus une grande statue extraordinaire, grande, terrible. Ce seront les mêmes nations, les mêmes empires, mais vus sous un autre angle qui appartient au peuple de Dieu. Vous savez bien que dans les paraboles de Matthieu 13, le Seigneur parle en parabole parce que il n'y a plus aucune possibilité de parler directement au peuple. C'est déjà un jugement qui tombe sur eux. Leurs yeux sont rendus aveugles, leurs oreilles sont devenues sourdes. Et le Seigneur parle en parabole. Et ne peuvent comprendre la parabole que ceux qui sont initiés, ceux qui possèdent le secret du Seigneur. Et il y a trois paraboles pour le côté extérieur, mais le Seigneur parle alors des mêmes choses à ses disciples dans la maison, mais ce sont trois paraboles d'un caractère tout différent, pour les mêmes choses sans doute, mais que le Seigneur présente aux siens, et qu'il explique aux siens, tandis que les paraboles, les trois premières s'adressent au peuple, personne ne peut les comprendre. Pourtant, elles sont d'une simplicité enfantine. Voici un semeur sorti pour semer. Y a-t-il une image plus simple que celle-là? Mais personne ne peut comprendre la signification de cette parabole, sinon ceux à qui le Seigneur consent à l'expliquer. Il en est de même dans le chapitre 7 où Daniel va voir les mêmes nations se succéder l'une à l'autre, mais sous la forme bien différente de bêtes sauvages, de bêtes mais que Dieu peut tenir en laisse. Elles ne sont pas indépendantes, elles ne peuvent pas se livrer à leurs instincts sans contrôle. Ce sont des bêtes féroces sans doute, mais elles sont tenues en laisse. C'est le côté que Dieu va révéler à Daniel. Ici, c'est au grand roi Nebuchadnezzar que le Seigneur donne ce songe et son explication, mais d'abord pour parler à sa conscience. Et nous savons bien qu'il n'en tiendra pas compte. Alors nous demandons, Jean-Louis, que reste-t-il à accomplir de cet immense statut? Parce qu'un lecteur attentif comprend bien qu'il y a une ponctuation qui nous intéresse. Par exemple, au verset 40, « Le quatrième royaume sera fort comme le fer, de même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. » Nous avons alors un point. Et à ce moment-là, nous pouvons introduire de longs siècles, car ce même empire, dépeint sous l'image des jambes de fer, va subir une éclipse, va se reconstituer plus tard, mais dans des conditions bien différentes. Et ces conditions sont telles que le verset 41 les place devant nous. Et selon que tu as vu les pieds et les orteils, entre les jambes de fer et les pieds et les orteils, à la fois de fer et d'argile, il y a une longue période de temps. Nous avons deux fois au moins dans cet exposé de Daniel, cette parenthèse, cette coupure dans le temps, qu'un lecteur attentif et un lecteur qui s'est penché sur la parole de Dieu ne manque pas de remarquer. Alors nous résumons rapidement. Toi, ô roi, tu es cette tête d'or. Et à partir de la tête, nous avons le premier empire chaldéen, la tête d'or, et vous voyez que la densité des métaux diminue rapidement, 19 et quelque chose pour l'or, puis ensuite l'argent, puis ensuite le fer, puis ensuite de l'argile. Mais d'autre part, le métal devient de plus en plus dur. L'or, très ductile, l'argent, ensuite l'airain, ensuite le fer. Et dans cette statue, Dieu nous donne déjà, chers amis, en quelques lignes, Dieu n'a pas besoin d'écrire des livres interminables pour nous expliquer quelque chose. Une proposition, quelques symboles présentés à l'attention du lecteur réveillé par l'Esprit de Dieu, et nous avons devant nous un exposé qui dépasse infiniment tout ce que l'homme pourrait nous raconter tout au long de grands ouvrages. Tu es cette tête d'or. D'autre part, les proportions de la statue correspondent exactement à la durée des empires. La durée de du premier empire, 70 années. Pourquoi 70 années? On l'a souvent rappelé. Pourquoi? Pourquoi pas 60? Pourquoi pas 80? Est-ce que c'est un chiffre arbitraire? Pas du tout. Dieu a donné l'autorité à Nebuchadnezzar, à l'empire chaldéen, pendant 70 ans, c'est-à-dire pendant le temps de la captivité de son peuple dans les provinces de cet empire. 70 années pendant lesquelles la terre s'est reposée. Il devait observer le sabbat. Il devait observer l'année sabbatique. Et l'Éternel avait dit, c'est un test pour moi. Si le peuple observe le sabbat, il y avait là, chez lui, quelque chose qui parlait en sa faveur quant à sa position morale avec Dieu. Mais méprisant le sabbat, méprisant l'année sabbatique et tout ce qui était lié à ce système établi par Dieu, tout était jeté par terre. Et Dieu dit, ah, vous m'avez frustré, des années sabbatiques qui devaient assurer le repos de la terre. Toutes les 6 années, il fallait laisser reposer la terre 1 année. Vous êtes désobéissant, vous êtes égoïste, mais je tiens bien mes comptes. Et vous m'avez frustré 70 fois une année sabbatique. Depuis l'existence du peuple comme nation indépendante, vous faites le compte, vous verrez, il y a 490 ans, et Dieu dit, eh bien, vous m'avez frustré de ces 70 années sabbatiques, vous allez me les restituer. Et vous allez aller à Babylone, dans les provinces, là-bas en captivité, vous asseoir au bord du fleuve et pleurer toutes vos larmes, mais ce sera trop tard, et le pays se reposera de ses sabbats. Lévitique 26, si notre mémoire est fidèle, 2 Chroniques 36, vous trouvez toutes ces affirmations données par le prophète, et c'est déjà Moïse qui les avait avertis. de ce grand danger qu'il courait en méprisant ce que Dieu avait établi comme règle à observer pour le maintien de ses relations avec eux. 70 années, la tête d'or. L'Empire dans sa splendeur. Il n'y a jamais eu d'autorité semblable à celle-là, d'autorité donnée sans réserve à l'homme. Il y a déjà ensuite la poitrine d'argent, il y a déjà les Mèdes et les Perses. Il y aura ensuite Alexandre le Grand avec les quatre ailes sur le léopard, nous y reviendrons peut-être. Il y a déjà division en quatre et ensuite 10 orteils. Vous voyez comme le pouvoir s'étiole, comme le pouvoir se dilue. Mais à partir de Nebuchadnezzar, c'est le pouvoir donné à l'homme sans conteste. C'est l'épreuve de l'homme à laquelle Dieu donne le pouvoir sans réserve aucune. Pour devenir quoi, cher ami? Cela rejoint l'histoire que nous avons souvent, qui a été souvent rappelée au milieu de nous. Pour devenir quoi, cet homme? Pour devenir une bête. De cette position de splendeur, de gloire à nul autre pareil. Toi, ô roi, tu es le roi des rois. Et Dieu fait de toi son serviteur pour gouverner les nations, car jusque-là, aucune n'avait obtenu l'hégémonie sur toutes les autres. Mais à toi, Nebuchadnezzar, Dieu donne le pouvoir sans aucune réserve sur les nations tout entières. Et cet homme devient une bête. Voilà l'histoire de l'homme. Et ainsi, chers amis, les proportions de la statue correspondent à la durée des empires. L'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, ayant à sa tête cet homme extrêmement remarquable, Dieu avait donné déjà son nom au moins 150 ans d'avance, et il avait dit par Esaïe le prophète, eh bien, je vais me susciter un serviteur pour ramener mon peuple de la captivité et pour rebâtir ma maison. Et il est raisonnable de penser que Daniel a pu dire au roi Cyrus, qui l'approchait de très près, eh bien voilà, grand roi Cyrus, ce que l'Éternel a déjà dit de toi. Parce que cet homme, Daniel, nous ne pourrions assez parler de son caractère personnel. Que fait-il? Que fait-il, Daniel? Que fait le fidèle? Étant dans cette position du résidu du fidèle, deux choses qui nous sont proposés à nous aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un homme qui prie, et c'est un homme qui lit la parole de Dieu. Et c'est en lisant le prophète Jérémie qu'il va faire une découverte extraordinaire, que Dieu a établi la durée de la captivité de 70 années. Daniel va le découvrir, comme il aura très probablement découvert que Cyrus était déjà écrit en toutes lettres dans le prophète Esaïe, avec la mention de tout ce que Dieu allait lui confier. Et on peut tenir aussi raisonnablement pour certains que cet homme a été saisi et que c'est un croyant, en tout cas n'a rien d'un idolâtre. Quand on lit le premier chapitre du livre d'Esdras, on voit que cet homme a la crainte de Dieu et qu'il a compris le pourquoi de sa présence et de sa situation élevée à la tête du grand empire médo-perse. Premièrement, avant toute autre chose, à la tête d'un immense empire de 127 provinces, que va-t-il faire? Il y avait bien d'autres choses à régler, sans doute. Il va d'abord promulguer un édit extrêmement remarquable quant à sa bienveillance envers les Juifs, chose qui n'était pas du tout courante chez les Perses, qui assujettissaient les nations et qui ne leur rendaient aucune liberté. Ce roi va dire, eh bien, à tous ceux qui veulent remonter à Jérusalem, je leur donne la liberté d'aller dans la terre de leur père pour reconstruire la ville et pour rebâtir la maison de l'Éternel. L'Empire Méde-Perse. Ensuite, l'Empire grec d'Alexandre pour arriver à cet empire de fer. Mais nous n'avons plus le temps, il faut nous arrêter. Mais nous avons bien essayé de vous montrer que les jambes de fer doivent être considérées à part des 10 orteils, à part des pieds. Car les jambes de fer, c'est déjà du passé. Et nous allons seulement dire un mot, avant de nous asseoir. Seulement, encore ce mot. Les jambes de fer, c'est une bête monstrueuse dans le chapitre 7 qui correspond aux jambes de fer. Et il n'y a pas eu de nation comme les Romains pour assujettir les autres peuples. Et vous savez bien que Les zélotes étaient animés d'un esprit de folie. Ce sont eux qui ont entraîné la chute de Jérusalem dans les conditions les plus effroyables qui soient. Mais c'était le destin de la ville. Seigneur, n'avait-il pas pleuré sur Jérusalem? Ah, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais elles sont cachées maintenant pour toi. C'était trop tard, le destin était scellé. Et ce pauvre peuple allait connaître les choses les plus effroyables par le siège de l'année 70, au jour de Titus. Et vous savez bien que cet homme Agrippa, le roi, est venu leur faire un discours en leur montrant, mais écoutez, vous êtes animés de folie, vous suivez des hommes insensés, car les Romains, personne n'a pu, ce sont les jambes de fer de la statue, personne n'a pu se mesurer avec eux, ils ont vaincu tous les peuples les plus belliqueux, les plus résistants, ceux qui étaient comme des bêtes féroces quand ils se sentaient cernés. Les Romains ont eu raison d'eux. Quelle est la nation moderne qui a pu aller conquérir l'Angleterre? Mais les Romains l'ont fait sur des coquilles de noix. Et ce roi Agrippa et l'historien Joseph également leur a dit, mais vous êtes fous. Comment voulez-vous vous mesurer à cet empire de fer, à ces jambes de fer, à ces légions romaines dont la discipline et la cohésion assuraient le succès de leurs armes dans tous les cas? Mais c'était, chers amis, hélas, le destin de cette pauvre ville de Jérusalem sur laquelle le Seigneur avait pleuré. Et pour terminer, n'en est-il pas ainsi aujourd'hui du monde dans lequel nous vivons? Ce qui a été l'effroyable tragédie de Jérusalem, la fin si terrible de ce pauvre peuple, de cette ville, plus d'un million de Juifs ont perdu la vie. Eh bien, ce n'est qu'une faible image de ce que la parole de Dieu nous dit quant au sort de ceux dont les privilèges ont été si grands, d'entendre les appels de la grâce de Dieu et qui ont bouché leurs oreilles, fermé leur cœur, en disant à Dieu, je n'ai pas besoin de ton salut. Mais demain, inexorablement, il faudra entendre malheur, malheur, malheur à la terre et comparaître devant celui qui aujourd'hui est le sauveur qui tend la main, mais qui demain sera le juge inexorable des vivants et des morts.